Je voudrais vous inviter à faire avec moi aujourd'hui une lecture assez longue dans la lettre à Philémon. Voilà, et nous lirons dans la lettre à Philémon du verset 8 au verset 20. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour, tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier pour le Christ Jésus, je te prie pour mon enfant que j'ai enchanté dans les chaînes, Onésime. Autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il te sera bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. Alors la situation est la suivante, Onésime était un esclave qui s'était échappé de chez son maître Philémon. Probable qu'en partant de chez son maître, il s'était servi dans la caisse. Et il était devenu chrétien au contact de Paul en prison. Et donc Paul écrit cette lettre en renvoyant Onésime à son maître. Alors, je continue la lecture. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être en effet a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi, et combien plus encore de toi, selon la chair et selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai, pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. Vous avez là un exemple classique de ce qu'on peut appeler en psychologie une relation triangulaire. Paul jouant le rôle de médiateur entre Onésime et son maître Philémon. Mais ici, il ne s'agit pas d'une simple médiation, comme il y en a beaucoup dans le monde, pour arriver à une situation de non-conflit, pour régler un conflit. Mais il s'agit de la recherche d'une réconciliation coûteuse, où chacun va perdre quelque chose. Paul va perdre une aide précieuse. Il le dit au verset 13, « J'aurais bien aimé garder Onésime avec moi ». Vous savez, les prisons à l'heure actuelle ne sont pas des endroits confortables, même si, paraît-il, les prisonniers ont la télé dans les cellules. Mais à l'époque, à Rome, c'était bien pire encore. Les prisons étaient des endroits très difficiles. Paul était vieillissant et avoir le bénéfice de quelqu'un qui venait le visiter, c'était quelque chose de très précieux. Et donc, en renvoyant Onésime à son maître, Paul se prive d'une aide précieuse. Onésime va perdre sa liberté et il va devoir affronter son passé. Alors, quelles sont les raisons qui l'avaient amené à s'enfuir de chez son maître? On ne sait pas, mais se remettre sous le joug de l'esclavage, mais il devait vivre plus ou moins dans la clandestinité, mais en tout cas libre, et il va devoir se remettre sous le joug de l'esclavage, et en plus, il va devoir affronter ton maître, non seulement... Je t'ai floué en partant, mais en plus, je t'ai volé. C'est difficile pour lui, d'accord? Et finalement, on va devoir renoncer à son orgueil, à sa colère, et il va devoir accueillir son esclave comme un frère. Et ça, on a du mal à le comprendre de nos jours, mais c'est inimaginable. Dans la société romaine, un esclave, c'est un objet. On le vend, on l'achète, un peu comme un bœuf ou un âne, donc c'est un objet animé, on va dire. C'est un objet, il n'a aucun statut, ni juridique, ni rien. Et vous vous rendez compte, accueillir quelqu'un qui a été votre esclave, et vous allez l'accueillir comme un frère, et c'est inimaginable, et c'est extrêmement coûteux. Et donc, vous voyez, au-delà de cette situation de crise ponctuelle, qui se joue comme ça, entre trois personnes, Cette lettre nous pose des principes de vie pour nous. Et j'aimerais en souligner deux. Le premier principe, c'est que toute relation humaine, pour un chrétien, en tout cas, est triangulaire. Dans le monde, les choses se passent d'égo à égo. On a des affinités qui font qu'on fait des choses avec des gens, ou au contraire, on a des inimitiés qui font qu'on les évite, hein, ou qu'on a des conflits avec eux. En tout cas, les relations se font de personne à personne, comme ça. Et pour nous qui sommes chrétiens, toute relation doit être vécue et recyclée en Christ. Toute relation est triangulaire. Toutes nos relations, nous les soumettons au filtre de la volonté de Dieu. Et souvent, de l'aide de Dieu. Ça joue sur des choses très intimes. La relation de couple entre chrétiens est une relation à trois. C'est-à-dire que on vit sa vie de couple sous le regard de Dieu, par l'aide de Dieu. Pour un chrétien aussi, les relations professionnelles doivent être recyclées au travers de la relation avec Christ. Qui fait que, dans toute la difficulté souvent qu'il peut y avoir dans le monde professionnel, nous on n'y va pas avec notre ego, mais on y va en soumettant les différentes interactions professionnelles que nous vivons au regard du Seigneur. Donc toute relation, pour un chrétien, doit être triangulaire. Et d'autre part, toute relation pour un chrétien, quelque part, est sacrificielle, elle implique un don de soi. Je ne suis pas là pour me servir moi, je vais revenir plus tard. Je suis là pour donner quelque chose, me donner. Dans le monde, essentiellement, il peut y avoir des exceptions, mais les relations sont globalement transactionnelles. On est en transaction. C'est du donnant-donnant. Alors, tant mieux si c'est du win-win, et souvent c'est du win-lose. Hein, voilà. En tout cas, c'est transactionnel. J'aime celui qui m'aime. Tu m'as rendu service et je te renverrai l'ascenseur. Je te rends service et n'oublie pas de me rendre l'ascenseur au moment venu. Alors, je ne dis pas que dans le monde, il n'y ait jamais de relations gratuites, jamais de relations sacrificielles, ça existe, mais ce n'est pas la dominante. Pour nous chrétiens, la dominante, elle n'est pas transactionnelle, elle est sacrificielle. Nous sommes, Paul nous appelle dans la lettre aux Romains, à être un sacrifice vivant. Nous sommes un sacrifice vivant offert à Dieu dans nos relations. Alors avant d'aller plus loin, si vous permettez, je voudrais vous relire tout ce passage pour que ça puisse un peu pénétrer dans nos cœurs, là. Donc voici ce que Paul écrit à son ami Philémon. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour. Tel que je suis, moi, Paul, un vieillard et de plus maintenant prisonnier pour le Christ Jésus, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant il te sera bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être, en effet, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi, et combien plus encore de toi, selon la chair et selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai, pour ne pas dire que tu te dois toi-même à toi. Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. J'aimerais vous faire un peu la présentation du personnage de Paul. Il apparaît dans cette lettre, Paul, comme ouvrier de réconciliation. C'est aussi certainement un des aspects de notre vie. Dieu nous appelle à être des ouvriers de réconciliation et je pense qu'on en a vraiment un modèle. Paul joue ici le rôle de Christ en s'identifiant en deux parties. On voit au verset 12 qu'il se solidarise avec Onésime. Il dit, il va être bien utile, accueille-le. Hein, il est une partie de moi-même. Et puis au verset 17, 19, il se solidarise avec Philémon. Si tu as été lésé, je te compenserai moi-même. Donc vous voyez, il n'est pas là à prendre le parti de l'un contre l'autre, il prend le parti des deux. Et au-delà de la situation ponctuelle, donc une situation assez spécifique, il faut reconnaître, hein, il y a cet appel pour nous, que Paul nous lance au travers de son exemple, qui est de vivre dans un esprit de réconciliation. Et c'est tout à fait facile pour moi de dire ça, voilà, vivons dans un esprit de réconciliation. Comme vous le savez, c'est peut-être moins facile quand on rentre dans le concret et que notre vie à nous est en jeu. Alors, vivre dans un esprit de réconciliation, tel que Paul nous le montre ici, c'est quoi? D'abord, ça implique d'être soi-même pleinement réconcilié. Comment je peux être un conciliateur entre deux personnes qui sont en conflit si moi je ne suis pas réconcilié? Comme dit le Seigneur, médecin, guéris-toi toi-même. Donc ça veut dire que je ne dois pas avoir de contentieux avec qui que ce soit. Et souvent, vous savez, moi je me dis dans le milieu chrétien, on est là la main sur le cœur, le Seigneur m'a pardonné, je pardonne à tout le monde, tout ça vient, ça va, aucun problème, oui. Moi je constate en tant que pasteur que souvent les gens traînent des contentieux qui sont peut-être soigneusement refoulés ou bien dans un petit coin de leur inconscient, mais qui sont là, avec toute l'amertume que ça peut générer. Par exemple, le contentieux typique, c'est le contentieux avec soi-même. Combien de gens dans nos milieux chrétiens sont là à dire « Ouais, le Seigneur va tout pardonner, c'est formidable de vivre la paix avec le Seigneur et tout », alors qu'en fait, ils sont dans l'auto-accusation et qu'ils ne se pardonnent pas des choses qu'ils ont faites, parfois il y a très longtemps. Donc on peut être en contentieux avec soi-même alors que nos lèvres proclament que Jésus a tout pardonné, que c'est formidable. On peut être en contentieux avec les autres, c'est-à-dire traîner des rancunes. Inavoué, évidemment. On est chrétien, on n'a pas rancune. Oui. On peut traîner des contentieux avec les autres. On peut traîner aussi des contentieux avec Dieu, avec la vie, et être dans des révoltes larvées, parce qu'on a raté les occasions, parce que quelque part la vie était injuste envers nous. On peut se retrouver avec des occasions professionnelles manquées, des maladies qui nous ont mis hors course à un moment de notre vie, des gens qui nous ont tourné le dos, enfin bref, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous avoir frustrés. Et comme Dieu est censé, enfin il est tout puissant, mais dans notre petite tête de chrétien, il aurait pu faire quelque chose, il ne l'a pas fait, et donc on peut être quelque part en contention avec Dieu. Donc comment puis-je être ouvrier de réconciliation si je ne balaye pas devant ma porte? Et c'est une invitation qui nous est lancée de laisser le Saint-Esprit faire le travail de nettoyage de notre propre cœur. Ensuite, et Paul nous le montre de manière très claire ici dans ce passage, par son exemple, nous sommes appelés à vivre notre vie comme ambassadeurs. Au verset 9, il dit ceci, « Tel que je suis, moi, Paul, un vieillard », mais on peut tout autant traduire, parce que c'est le même mot en original, « Moi, Paul, un ambassadeur ». Autrefois, on envoyait en ambassade, on n'envoie pas un petit jeune qui ne connaît pas la vie et qui ne sait pas négocier. Donc les ambassadeurs étaient en principe des gens d'âge mûr, souvent même des vieillards, justement, ce qui donnait du poids à leur ambassade et qui certainement donnait beaucoup plus d'expérience à leur manière de gérer l'ambassade en question. Et donc Paul dit, voilà, je suis un ambassadeur et d'autant plus maintenant un ambassadeur dans les chaînes. Je suis prisonnier. Et notre message en tant qu'ambassadeur, on n'est pas là ambassadeur de nous-mêmes en disant « Regardez comment je suis gentil, intelligent, etc. » Nous sommes des ambassadeurs de réconciliation. Notre grande ambassade en tant que chrétien, dans un monde qui est jusqu'au cou dans le conflit, c'est de dire « soyez réconciliés avec Dieu, d'abord et avant tout. » Voilà notre message numéro un. Et nous portons la paix dans ce monde, nous sommes appelés à proclamer ce message de la réconciliation possible avec Dieu. Je dis possible parce que pas chacun garde sa liberté. Certains acceptent de se réconcilier avec Dieu. Et ça aura toute une série de cascades positives dans leur vie, en aval. Parce que s'étant réconciliés avec Dieu, ils se réconcilieront avec toutes sortes de personnes, y compris avec eux-mêmes. D'autres ne sont pas intéressés par une réconciliation avec Dieu. Ils resteront dans leur amertume et dans leur conflit. Donc Paul nous dit, nous sommes ambassadeurs, soyez ambassadeurs avec ce message, soyez réconciliés avec Dieu. Jésus, dans son discours de ce serment sur la montagne, nous dit, heureux les artisans de paix. Heureux ceux qui se positionnent d'une manière qui fait qu'il y aura plus de paix entre les gens. Et comment est-ce que je peux être artisan de paix? Je ne peux pas toujours aller tirer les sonnettes et aller voir Dupont et puis lui dire « je voudrais qu'on aille parler ensemble à Durand ». Ça ne marche pas comme ça, en tout cas pas initialement. Ça c'est plus un aboutissement qu'autre chose, quand on peut vraiment mettre les gens en contact et les amener à se serrer la main. Mais en amont, bien avant cela, il y a tout ce travail de témoignage et de prière. Si par ma vie, je montre que je suis réconcilié, que je ne suis plus dans l'amertume, que je ne suis plus dans le conflit, que je ne suis plus dans la revendication, et si dans le secret de mon cœur, je prie parce que j'ai vu autour de moi que ça ne va pas, et que donc j'intercède fidèlement, mois après mois, année après année, alors Dieu suscitera des occasions qui me permettront d'être effectivement un artisan de paix dans ma famille, sur mon lieu de travail, dans le quartier, etc. D'accord ? Au-delà de cette situation précise et au-delà de ce que je viens de développer, Paul, comme exemple d'artisanat de paix, si j'ose dire, artisan de réconciliation, je voudrais faire un zoom arrière. Hein. Et vous parlez de Paul comme un modèle de relation humaine selon Dieu. On n'est pas toujours dans des situations de conflit, hein, que ce soit nous-mêmes ou, merci Seigneur, il n'y a pas que des conflits dans notre quartier ou dans notre vie professionnelle. Il y a souvent des tas de situations qui sont assez neutres, on va dire. Et je trouve personnellement dans ce passage des enseignements sur les relations humaines en général. D'abord, l'amour comme manière de fonctionner. Paul nous fait ici, je dirais, une brillante démonstration, qui n'est pas une posture, hein, ce n'est pas des paroles, il le vivait. Paul nous fait une démonstration d'une manière de fonctionner selon l'amour. Et la question qu'on peut se poser par rapport à nous-mêmes pour filtrer notre propre comportement et voir où on en est, c'est de se poser périodiquement la question, suis-je dans la voie de l'amour ? Dans telle personne, vis-à-vis de telle personne, dans telle relation où je suis engagé, quel que soit le domaine, est-ce que je suis toujours dans la voie de l'amour? Alors je m'explique. Je vous relis le verset 13, verset 13-14. « J'aurais désiré retenir Onésime auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. » Nous avons là l'exemple de ce que fait Paul, c'est se démarquer de la mentalité du « moi seul, moi d'abord ». Nous sommes tous naturellement égocentriques, il faut le reconnaître, et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il n'y a pas cette base au départ, je dirais ce socle d'égocentrisme. Et donc Paul le dit, moi mon intérêt c'était de le garder, mais il se dépouille de son intérêt. Je dirais que c'est d'ailleurs un intérêt légitime. Mais Paul se dépouille de son intérêt légitime, il se dépouille de la mentalité du monde, moi d'abord. Hein. Et il dit dans la lettre aux Philippiens, hein, si j'ai relevé le verset, si vous voulez le relire, c'est Philippiens chapitre 2, verset 4, il dit que chacun d'entre vous, au lieu de considérer que ses intérêts, considère aussi celui des autres. Donc il y a déjà ça. Une manière de fonctionner où je ne suis pas à tout ramené à moi. Également, il nous dit au verset 8, « C'est pourquoi que, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui te convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour. » Autrement dit, je pourrais t'en imposer. Je suis ton ami, certes, mais je suis un grand apôtre. Si ça se trouve, Paul était à l'origine de la conversion de Philémon. Et donc, il aurait pu faire jouer le statut. En tant qu'apôtre, le grand apôtre des nations, en tant que ton père spirituel, je te demande un petit service et ça ne se discute pas, tu accueilles Onésime. Voilà. Mais Paul n'était pas là-dedans. Il n'était pas là à faire jouer les galons, comme on dit dans l'armée. D'accord ? Il y avait chez lui ce refus d'en imposer. C'est un refus constant d'en imposer chez lui. Il le dit dans la lettre aux Thessaloniciens. Hein. On aurait pu faire ci, faire ça, etc. On ne l'a pas fait. On a été dans la douceur, dans la petitesse, dans l'humilité. Et donc, il y a là, chez Paul, l'attitude de faire appel au don de l'autre, plutôt qu'à prendre de force. Dans le monde, c'est ça. Je te demande quelque chose, tu as le droit de me dire non, mais je le prendrai quand même. Et c'est une attitude qui est à l'origine, justement, de beaucoup de conflits. Parce qu'évidemment, la partie adverse se sent lésée. Et donc, Paul dit bien, hein, j'aurais beaucoup de liberté pour un peu taper du poing sur la table s'il fallait, mais je ne le ferai pas. Et j'aime mieux te prier au nom de l'amour. Je me mets quelque part en position d'infériorité, en position de demandeur. Donc ça, c'est certainement quelque chose à imiter. Marcher dans la voie de l'amour, c'est ne pas faire jouer nos avantages naturels, quand on en a, pour se mettre en position de force et obtenir ce qu'on veut. Au verset 14, il dit ceci, « Je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas forcé, mais qu'il soit volontaire. » Vous voyez, cet appel à l'autre en respectant sa liberté. Donc, il est légitime, il est normal de demander des choses à des gens autour de nous. Dans toutes sortes de contextes. Voilà, j'aimerais que tu me rendes tel service. Mais marcher dans la voie de l'amour, donc il est légitime de dire, voilà, j'ai tel intérêt, j'aimerais qu'il soit satisfait. Marcher dans la voie de l'amour, c'est de respecter la liberté de l'autre. Tu as véritablement le droit, je te reconnais le droit de me dire non. Parce que ça ne t'arrange pas, ça, tu ne vois pas les choses comme moi. Voilà, donc je te reconnais la véritable liberté de me dire non, et si tu me dis non, ben, je n'irai pas derrière te critiquer, etc. Quand il s'agit de mes intérêts personnels. Et donc Paul faisait ça, il faisait ça également quand il s'agit du ministère. Dans 1 Corinthiens 16, il dit qu'il a exhorté Apollos à aller à Corinthe. Et Apollos, donc c'est un de ses collaborateurs, Apollos, il ne voyait pas ça comme ça. Quoi. Parce que ce n'était pas l'heure. Ou, bref, Apollos traînait un peu les pieds. Et Paul dit, ben, il viendra plus tard, quand il en aura l'occasion. Il reconnaît à Paul, à son collaborateur, Apollos, d'avoir une vision un peu différente sur le ministère, d'être sur des positions un peu différentes. Et ça, c'est quelque chose de valable, vous voyez, de reconnaître à l'autre cette liberté de servir le Seigneur un peu différemment de nous. Donc, vous voyez, nous sommes appelés à la délicatesse dans les rapports humains. À l'origine, moi, je suis angliciste par mes études et mon métier, et vous avez cette notion en anglais du gentleman. Le gentleman, littéralement, c'est le gentilhomme, l'homme qui est doux, qui a des manières. Et alors, c'est très bien comme truc, mais c'est un moule social. Hein. Ça marche avec une certaine position sociale, une aristocratie, hein, avec tout l'orgueil qu'il y a derrière. Mais nous sommes appelés nous-mêmes à être des gentlemen ou gentlewomen, pas parce que c'est un moule social, pas parce que c'est une posture que nous prenons, mais par imitation de Christ et de Paul sous la conduite du Saint-Esprit. L'amour comme manière de fonctionner, ça ne peut pas être une posture. D'accord ? Un autre point, c'est le service comme objectif constant. Paul était dans cette mentalité-là, et nous pouvons l'appliquer à nous-mêmes et nous poser la question par rapport à notre comportement. Qui dois-je servir ? C'est-à-dire que quand je rentre dans une relation, quand je rentre, par exemple, dans un nouveau milieu, j'adhère à une association, je change d'horizon professionnel, etc. Qui dois-je servir ? Auprès de qui est-ce que le Seigneur m'envoie ? Alors, si je détaille un peu, rechercher la fécondité en tout temps. Nous sommes tentés, en tant que chrétiens, enfin, pas en tant que chrétien, en tant qu'homme, à dire voilà, moi, si les circonstances sont favorables, eh bien, je regarde autour de moi à voir qui je peux servir. Par contre, si les circonstances sont adverses, eh bien, là, je me mets en roue libre, on verra plus tard. Et donc, les circonstances adverses peuvent être un prétexte à ne rien faire, finalement. Alors que pour Paul, c'était une opportunité de servir. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que Paul était en prison, et comme je vous disais, les prisons romaines, ce n'était pas le top du confort. Imaginez, alors il dit qu'il est un vieillard, à l'époque on était un vieillard assez vite, et en plus, vu la vie qu'il avait menée, on peut imaginer, il n'est pas si vieux que ça, il devait avoir la cinquantaine dépassée, peut-être 55. De nos jours, ça serait presque la force de l'âge. Hein. Et là, à cet âge-là, il était cassé. Et là, vous l'imaginez dans un cachot plus ou moins humide, très inconfortable, certainement chargé de chaînes. Vous imaginez un peu. N'importe qui pourrait dire, attends, j'ai mal partout. J'ai des problèmes respiratoires. La nourriture de la prison, elle était infâme. Je suis tout seul. Attends, je m'occupe un peu de moi, quoi. J'essaie un peu de trouver... dans mes souvenirs, je sais pas quoi, un peu de confort. Et Paul, lui, dans les chaînes, il demeure ambassadeur. Il est là pour servir le Seigneur. Et vous savez tous que Paul a profité de la prison, de deux séjours différents, pour écrire des lettres qui pour nous sont paroles de Dieu. Et certainement, ces séjours qu'il a fait en prison sont pour nous une bénédiction considérablement plus grande que quand il était à droite à gauche en train de fonder des églises. Donc il a, je dirais, profité de circonstances qu'on peut qualifier de catastrophiques pour servir le Seigneur d'autant plus. Et il dit au verset 10, « Je te renvoie Onésime que j'ai engendré dans les chaînes. » Alors on ne connaît pas l'histoire, qu'est-ce qui fait que Onésime est rentré en contact avec Paul, pourquoi il est venu à la prison, comment il en est venu à rencontrer Paul parmi les autres prisonniers, comment s'est nouée la relation, de sorte qu'Onésime a fini par se convertir, peu importe, on ne sait pas, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est certain, c'est que Paul s'est mobilisé pour Onésime. Et encore une fois, dans la situation où il était, on aurait compris qu'il pense à lui-même. Et je pense que Paul s'est oublié lui-même pour se mettre à servir Onésime. Voilà une ouverture spirituelle chez cet esclave fugitif. En plus, il se sent coupable, il a quitté son maître, il l'a volé. Et il a certainement besoin de pardon, de réconciliation. Je vais lui parler. Je vais me mettre à son service. Quelque chose de géant là-dedans. Être instrument de Dieu dans la faiblesse. Paul le dit, clairement. C'est dans ma faiblesse que Dieu agit. C'est dans la faiblesse que la force de Dieu s'accomplit. Donc vous voyez, il y a ça, rechercher la fécondité en tout temps. Une autre chose, c'est de voir les gens selon Christ. L'identité nouvelle l'emporte sur les catégories humaines. Un esclave, comme je disais, dans l'Empire romain, c'était rien. C'était une marchandise. Et Paul, il voit arriver Onésime, esclave, en plus esclave en fuite, quand on les prenait, on les battait, parfois même on les tuait, ça servait d'exemple. Paul, il ne voit pas Onésime comme ça. Il ne le voit pas comme ça. Et il fait un jeu de mots. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant il te sera bien utile. Pourquoi il dit ça? Parce que Onésime veut dire utile. Donc effectivement, Onésime avait une vie telle qu'il n'avait pas été très utile à son maître, en tout cas à partir du moment où il était parti, en plus en le volant, c'est clair que c'était plutôt, c'était pas un cadeau. Mais voyez, Paul a vu autre chose chez cet esclave en fuite que justement l'esclave en fuite. Il a vu la destinée éternelle, et il le renvoie à son maître en tant que chrétien. Et le changement de nom, enfin il n'y a pas de changement de nom, ici, mais je veux dire, c'est symbolique. Onésime n'avait pas été à la hauteur du nom qu'il portait, et voilà que grâce à l'intervention de Paul, il va rentrer dans sa destinée éternelle et être utile, et entre autres, devenir à nouveau utile à son maître. Et je pense que On peut porter toutes sortes de regards sur les gens. Il y a le regard de l'homme religieux sur son voisin alcoolique. Ah, il est encore vivre. Si ça se trouve, il bat sa femme. Et puis au boulot, encore, celui-là, il est encore en train d'intriguer pour obtenir un poste, peut-être un poste à ma place. Vous voyez, on peut jeter ce regard religieux, condamnatoire. Ou alors on peut, tout en reconnaissant hein, que les personnes dysfonctionnent, qu'elles sont dans le péché, comme on dit dans nos milieux, qu'elles sont en train de s'autodétruire, peut-être de détruire l'entourage. Discerner quelque chose au fond qui est différent et leur parler de manière à essayer d'accrocher leur attention pour mettre les gens sur les rails de leur destinée éternelle. Je veux dire, nos églises sont remplies de gens qui n'ont pas eu des vies. Bon, il y a eu des gens qui étaient bons bourgeois avant, on va dire. Mais il y a dans nos églises, dans toutes nos églises, des gens dont la vie n'honorait ni Dieu ni les hommes. Mais ils ont entendu la parole de Dieu et ils ont changé de vie. Et ils font des chrétiens, des hommes et des femmes utiles à Dieu et utiles à la société. Donc, vous voyez, cette espèce de préoccupation de voir les gens, non pas tels qu'ils sont, comme ça, dans l'immédiat, mais les voir en Christ. Je dis souvent, je fais là une réflexion qui est typiquement pastorale, en tant que pasteur, moi, je ne suis pas appelé à prendre une photo, vous savez, style Polaroid. Clac ! T'as vu ? Voilà ce que tu es. Alcoolique, adultère, je ne sais pas quoi. Moi, je suis appelé à faire un film. Faire un film. D'où vient la personne ? Si ça se trouve, elle a des bonnes raisons, enfin, elle n'a pas de bonnes raisons, vous voyez ce que je veux dire, mais elle a des raisons d'être tombée dans l'alcoolisme. Et par la grâce de Dieu, elle pourra en sortir. Et on pourra faire le film de sa vie. Peut-être que ça a très mal commencé, mais ça peut finir très bien, si simplement on laisse la chance à la personne de découvrir Dieu, de rentrer en relation avec Jésus et de changer de vie. Et dans notre service, c'est d'accoucher les gens dans la prière. Et puis de les servir pour qu'ils accomplissent leur destinée éternelle. La plupart des gens qui sont dans nos églises de manière identifiable, c'est-à-dire qui sont assis sur une chaise comme vous l'êtes maintenant, c'est des gens pour lesquels on a prié des années en amont. Et le simple fait de passer la porte de la salle a montré que tout un travail avait été accompli par des anonymes qui avaient fait leur job, entre guillemets, de prier pour eux. Donc, vous voyez, rechercher la fécondité en tout temps et voir les gens selon Christ. Alors, il est temps que je m'arrête, conclusion. Et ce passage me paraît remarquable parce qu'il y a un va-et-vient de service là-dedans. Paul a servi Onésime. En lui permettant de devenir chrétien et en le remettant sur les rails, même au niveau social. Onésime servira son maître et finalement accédera à la demande de Paul. Vous voyez, une espèce de va-et-vient de service un peu dans tous les sens. Et pour moi, et c'est ma conclusion, c'est une image de l'Église où nous nous rendons serviteurs les uns des autres. Le service, il n'est pas à sens unique dans l'Église. Et moi, je vis l'Église, personnellement, l'Église locale, comme une espèce de laboratoire. Laboratoire, justement, du service mutuel un peu tous azimuts, un peu multidirectionnel, multiflow. Et ce laboratoire-là, qui est l'Église locale, c'est vraiment la porte d'entrée du paradis sur Terre. Le monde, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, hein. Le monde peut être un endroit vraiment triste, vraiment méchant, vraiment sale. Ça, on n'y peut rien. Mais dans ce monde-là, il y a des églises où on peut vivre quelque chose de radicalement différent. Où on peut vivre un avant-goût de ce que sera le paradis que Dieu nous promet dans la dimension éternelle. Alors vivons cela, vivons selon ce que Paul nous enseigne et nous montre par son exemple dans ce passage. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.